cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 10 novembre 1994.
tiré par lui. Il s'en aperçoit. Ce n'est pas à cause de ça qu'il m'a aimé. Non. Ça arrive, j'ai tous les drames du reste. On l'aime et puis même pas. J'en suis désolé. Et je m'inquiète. Je l'aime, est-ce qu'il m'aime ? J'en suis pas sûr. Parce que pour qu'il m'aime, il faut que je sois pour lui son bien. Autrement, il n'y a pas d'amour. Alors, l'amour que j'ai pour lui conditionne, aide, favorise. Mais ce n'est pas ça qui spécifie.
Risque dans la réciprocité de rester dans les manants.
l'immanence. Et quand vous êtes dans l'immanence, vous dépendez de son humeur, de sa manière d'aimer. Et par le fait même, si lui est de mauvaise humeur, vous l'aimez moins, alors que ce serait juste l'inverse. Il est de mauvaise humeur parce qu'il y a eu des échecs. Il réclame un plus grand amour. Il faut pas qu'on prenne l'épouse, il retrouve l'échec. Il faut qu'on prenne l'épouse, il retrouve au contraire un nouvel élan qui lui rappelle que la réalité profonde qui le rend victorieux de tout, c'est son amour qu'il a pour une personne. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Et il faut, dans la direction spirituelle, tant au plan surnaturel qu'au plan naturel, la pédagogie, toute la différence d'une pédagogie objective et d'une pédagogie psychologique, elle est là la différence. Parce que dans la pédagogie psychologique, vous regardez le conditionnement. Et là, vous dites ça, tu es toujours le même, chaque fois que tu fais ça, tu calmes, allez, vous voyez les défauts. Que de temps en temps, on mette en lumière les défauts. C'est possible. Mais ce n'est pas pédagogique. La pédagogie doit être victorieuse. On attend du pédagogue quelqu'un qui ne cesse de vous porter et de vous montrer que vous êtes victorieux. Autrement, ça dégringole. Alors, il faut réfléchir là-dessus. Maintenant, nous continuons cette petite enquête. Je passe au plan spéculatif. Alors, vous voyez, ce qui est très important au point de vue pédagogique, et c'est là, je l'insiste, surtout pour ceux qui voient, dans le point de vue de la scolastique thomiste, décadente, elle est décadente très vite, à partir du XVIe siècle. Et même peut-être dès le XIVe. Dans la philosophie thomiste décadente, on regarde le point de vue spéculatif en premier lieu. Et on dit que le point de vue pratique, c'est l'application des principes spéculatifs dans le point de vue pratique. C'est là la grande erreur. Vous voyez, je reste dans l'immanence. L'application. Alors que, au niveau pratique, il y a des principes propres. Et génétiquement, je commence ma philosophie toujours par la philosophie pratique. Le point de départ de la philosophie, c'est ce que nous essayons ici. Le point de départ de la philosophie, c'est la philosophie de l'art. C'est pour ça que c'est si important la philosophie de l'art. Ce n'est pas la logique. On avait pendant des siècles et des siècles le point de départ de la philosophie de la logique. C'est un faux départ. La logique n'est pas la philosophie. Elle est un art. L'art des arts, c'est très important, mais ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est la philosophie de l'art, la philosophie du travail. C'est à partir de là que se font toutes les distinctions. Distinction matière, forme, efficience, finalité. Et cause exemplaire. Tout y est. Je découvre qu'est-ce que c'est que l'analyse. J'analyse une œuvre d'art. J'analyse le travail. C'est la philosophie de l'art à ce point de vue-là est irremplaçable. Vous voyez ? Alors, ça a été, pour ceux qui ont étudié Aristote, la grande critique qu'ils ont fait à Aristote en disant « Mais Aristote se sert d'analogie par rapport à l'art pour comprendre la philosophie de la nature. » Mais c'est bien évident. Parce que l'art est pour moi quelque chose de plus facile à comprendre que la nature. L'art est plus proche. voisin. Ça provient de mon grand-père. Tandis que la nature, ça provient de Dieu. L'art est petite fille de Dieu. C'est plus facile de regarder l'œuvre de la petite fille, ce qu'est la petite fille, que de regarder Dieu. C'est plus proche de moi. Et c'est là, ça a été l'erreur de la scolastique de commencer par le point de vue spéculatif, le point de vue logique, puis le point de vue spéculatif, et dire on applique. Alors que on commence, et vous le voyez tout de suite ici, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que la finalité, mais regardez l'œuvre d'art. Regardez l'amour d'amitié. Regardez la politique ou le bien commun. Vous êtes dans une philosophie pratique, une anthropologie. le mouvement local. Le mouvement local est le mouvement le plus parfait. Pourquoi ? Parce que c'est le mouvement qui va vers la fin. Le mouvement d'altération ne va pas vers la fin. Le mouvement d'altération engendre la lutte. Je me défends. Et lorsque je me défends pas assez, je suis corrompu. Je suis détruit. Tandis que le mouvement, oui, c'est le mouvement local me fait comprendre comment il y a dans la nature un ordre, une détermination dynamique.
Sure.
je transpose la distinction matière et forme que j'ai découvert en philosophie de l'art. Je la transpose. Je pose la question, est-ce que je peux la transposer? Et je vois qu'en effet, je peux la transposer. Parce que cette nature, principe immanent du mouvement, implique une détermination. Il implique une indétermination. Et c'est propre du devenir. Je me pose la question, est-ce que la nature a-t-elle une finalité? Je dis oui, à cause de la forme, mais à cause de la matière, c'est le hasard. Donc la finalité est la victoire sur le hasard. C'est donc une finalité qui est extrêmement difficile à découvrir. Parce que le hasard, quantitativement, est toujours ce qui l'emporte sur la finalité. Parce que la matière, elle est fondamentale. Elle est radicale. Et la matière est source du hasard, de l'indéterminé. De sorte que la finalité doit toujours se découvrir en parallèle avec le hasard. Et je comprends très bien comment, de fait, quand je ne regarde plus que la causalité matérielle, la quantité, la finalité est donnée grâce à la qualité. Et la qualité dominante dans l'univers, c'est la lumière. Une première finalité dans le monde physique, la lumière et le feu. La lumière, c'est comme la qualité du feu. La détermination du feu, c'est la victoire de la forme sur la matière. Et la qualité, alors, de cette victoire du feu sur la matière, donc de la forme feu sur la matière, c'est la lumière. C'est dans ce sens-là que la lumière est la gloire du feu. C'est la gloire de cette victoire de la forme sur la matière. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça, je crois, que la lumière, c'est la gloire de notre univers. Et ça touche le feu. À la victoire de la forme sur la matière, il y a Alors, je peux expliquer ça mécaniquement, c'est évident, mais il y a quelque chose de plus profond. Et je crois que c'est pour montrer que dans le monde physique, il n'y a jamais l'unité parfaite. Parce que la finalité n'est jamais totalement victorieuse. Alors, je reviens, vous voyez, dans ce que nous avions vu avant. Nous avions vu que la finalité implique péras et telos. Eh bien, le point de vue de la limite. Quand un torrent est en colère. ce corps de l'homme, il l'emporte, il s'en fiche. Le monde physique ne s'arrête pas devant le corps de l'homme. Vous ne dites pas devant un torrent, arrête-toi, je suis ta fin. Je peux pas. Ce qui montre bien, que c'est pas la finalité du monde physique. Le monde physique a une telle quantité, et c'est vrai, c'est fou la quantité du monde physique. C'est une force qui dépasse tout. L'homme avec la bombe atomique croit avoir une force étonnante, mais non, ce n'est rien à côté de la force du monde physique. C'est tout petit. C'est ce qui dégage la puissance d'un orage, la puissance de l'éclair, la puissance de... Mais c'est fabuleux comparativement à ce que l'homme est capable de capter. Vous voyez ? Alors c'est évident qu'il y a des réserves d'énergie, de force étonnante dans le point de vue de la matière, qu'on n'arrivera jamais à épuiser. Tellement il y a là quelque chose qui va très très loin. C'est curieux dans une vision de sagesse de voir combien le point de vue de la matière, le point de vue de la quantité, prend une importance énorme. Mais ce domaine de la matière et de la quantité reste un domaine du hasard. Quelque chose qui m'échappe. Au fond, le hasard, c'est ce qui m'échappe. C'est l'indéterminé. Ça m'échappe. Ce qui échappe à la finalité. Ce qui est en dehors de la finalité. Ensuite, philosophie du vivant. Donc, je pourrais dire, vous voyez, que la philosophie de la nature me montre que dans la nature, la finalité n'est jamais totalement victorieuse. Et donc, la finalité demeure dans l'immanence de la nature. Et la transcendance de la finalité est très fragile. Dans quelle mesure la lumière transcende-t-elle le monde physique ? Non. Elle est liée au feu. Elle ne transcende pas. Alors ça, c'est justement là où on voit que, pour l'analogie de la lumière comme qualité, les limites. Mais c'est très intéressant à étudier ça exactement. Parce que c'est toute la finalité dans le monde physique. Vous voyez ? Alors, comprenez bien, parce que ça explique pas mal de choses. Si je n'avais pas découvert la finalité au niveau de la philosophie humaine, je crois que je ne la découvrirai pas au point de vue spéculatif dans la philosophie de la matière. Mais, et c'est pour ça qu'on dira, et ce sera le slogan habituel des savants, la finalité c'est l'anthropologie, c'est métaphorique, c'est l'homme qui applique la finalité à un domaine où il n'y a pas de finalité. Il y a quelque chose de juste, c'est que la finalité dans le monde physique est terriblement enveloppée par la matière, donc enfouie. Mais si j'ai découvert la finalité au point de vue philosophique humaine, je me pose la question et je vois qu'il y a un reflet, en quelque sorte, de la finalité. Il y a une présence de la finalité dans le monde physique, mais qui reste très peu explicite, qui ne peut être saisie que par la forme. Est-ce que dans le monde physique, la finalité me donne un principe propre ? Je ne crois pas. Elle me donne un principe. prolongement de la forme. Un prolongement, mais pas plus. Il n'y a pas de finalité transcendante du monde physique. La seule finalité transcendante du monde physique, ce serait le corps de l'homme. Et qu'il ne l'est pas directement, parce qu'il y a le métaxu, vie, qui est un au-delà du monde physique.
Voyez, écoutez.
au niveau de la philosophie du vivant, je retrouve le problème de la finalité au niveau spéculatif. Parce que je découvre quelque chose qui est au-delà de l'immanence. Et je vois parfaitement la distinction entre péras, le terme, et la fin. Péras, le terme, la limite, reste immanente, et la fin implique toujours une transcendance. Une transcendance par rapport à la nature. La transcendance de la procréation se fait dans la succession des individus au-delà de la mort. Donc c'est par le point de vue de la succession. C'est une victoire, voyez, dans la quantité. C'est très curieux. Parce que ça reste immanent. L'individu qui naît, le petit de l'homme ou le petit animal, mais il est corruptible. Donc il est marqué dès le début par le point de vue de la limite. Il n'est pas victorieux de la limite. Il est victorieux de la mort. Donc il est victorieux de la limite de l'individu. Mais il ne dépasse pas. Donc vous voyez, c'est une victoire très partielle et grâce à la quantité. C'est curieux comment la quantité va leur permettre une certaine victoire à l'égard de la matière. Par le nombre. Et les petites souris se multiplient. Et les petites souris se multipliant sont victorieuses de la mort. Chaque fois qu'une petite souris naît, elle dit « Je suis victorieuse de la mort de mon père. » Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une victoire de l'enfant sur les parents. Une victoire quantitative. Pas plus que ça. Une victoire quantitative. Parce que l'enfant, normalement, meurt après les parents. Donc il est victorieux. Le jour où les parents meurent, c'est lui qui prend la succession. Il prend l'héritage, il prend le patrimoine. Il est victorieux. Quantitativement, pas plus, quantitativement. C'est une victoire très, très faible qui demeure dans l'immanence. Tandis que l'esprit seul transcende la mort. C'est vous qui inventez ça. Parce que, regardez le monde physique. Et je transcende la mort que par la quantité. Et c'est pour ça qu'on fait les statistiques. Et que dans un pays, on voit que la mort l'emporte sur la natalité. Ah, situation limite. Tout de suite. De voir ça, et c'est important de comprendre ces choses-là, ce phénomène-là, de voir que la quantité, que la finalité dans le monde matériel, même chez le vivant qui n'est pas spirituel, qui n'habite pas l'esprit, la finalité est, j'allais dire, elle est hasard l'emporte sur la finalité. La mort l'emporte sur la finalité. Sauf par la quantité. C'est par la quantité que je suis victorieux de l'indétermination de la matière. Tout le culte de la quantité, tout le culte du nombre, puisque c'est la première victoire. Mais le nombre ne me donne jamais l'esprit. Au contraire, il risque aussi de l'étouffer. On sait que c'est plus difficile de faire qu'une communauté de 100 demeure spirituelle qu'une communauté de 5. Parce qu'au point de vue victoire du hasard, oui, mais la transcendance est plus difficile. La quantité n'est pas la vraie victoire, n'est pas vraiment la, me donne pas la victoire de la finalité, c'est l'esprit. Et alors, au plan de l'esprit, je retrouve la victoire de la finalité, la découverte de la finalité, la vérité et l'amour d'amitié. Ce sont les deux grandes victoires de la finalité. Mais je les ai vues. Je les ai vues en philosophie humaine. Alors, pour découvrir la vraie victoire de la finalité, il faut la métaphysique. Y a-t-il une finalité?